Europe Média. Ouvrons nos oreilles.
La figure de l'avocat ou de l'avocate est aujourd'hui largement représentée dans les médias, le cinéma, la télévision ou encore la littérature. Mais l'image que l'on a de ces professionnels du droit est souvent réductrice, exagérée, fantasmée, voire caricaturée. Connaît-on vraiment ce métier? Qu'est-ce qui conduit à embrasser cette carrière? Une vocation précoce, tardive? Quelles contraintes et quelles satisfactions? Quelle réalité? Et si c'était à refaire? Le barreau de Nantes a eu envie de montrer la richesse et la diversité des femmes et hommes qui exercent et incarnent cette profession. Des individualités au parcours et personnalités si différents. Ainsi est né L'envers de la robe, une série de podcasts proposée par le barreau de Nantes, réalisée par Pop Media. Épisode 9, Olivier.
Olivier, donc avocat au barreau de Nantes depuis désormais 31 ans. Je travaille dans les palais de justice. Je fais du judiciaire, comme on dit, c'est-à-dire un exercice essentiellement autour du procès, de la vie des palais de justice en général. Beaucoup de droit pénal, beaucoup de droit des personnes au sens large. Ça peut être le droit de la famille, le droit de la filiation, le droit des mineurs. Et puis aussi, parce que c'était un peu ce que j'aimais quand j'étais étudiant, le droit des obligations, le droit civil, le droit des contrats. Donc une activité qui reste assez large. Pas de vocation précoce, pas de modèle familial, pas de modèle littéraire, pas de modèle cinématographique, zéro modèle. Donc le hasard qui fait que j'ai exercé cette profession parce que j'ai rencontré des avocats qui m'ont permis, quand j'étais étudiant, de travailler dans leur cabinet d'avocats, un cabinet très investi dans le droit des particuliers, très investi aussi dans le fait d'accepter toutes les situations de fortune, c'est-à-dire d'accepter l'aide juridictionnelle. Travailler à l'aide juridictionnelle, quand on fait du droit des particuliers, c'est assez central comme activité, parce que ça veut dire qu'on va accepter tous ceux également qui ne peuvent pas assumer des frais d'avocat et pour lesquels on fait une demande d'aide pour être indemnisé par l'État. Et donc ce contact avec des avocats nantais qui avaient une très bonne structure et qui travaillaient très bien, enfin c'est ce que je pense toujours d'ailleurs aujourd'hui, eh bien j'ai pu passer cet examen d'entrée à l'école des avocats et faire le choix de cette profession. Mais alors on peut vraiment dire que c'est le hasard, parce que si j'étais pas amené à travailler chez eux quand j'avais 22 ans, peut-être que je serais jamais devenu avocat. Mon idée au départ, c'est que je ferais une spécialité qui serait de ne pas en avoir. Et d'être justement un généraliste, comme il y a le médecin généraliste. C'est-à-dire que quand je commence la profession, j'exerce la profession en me disant que j'aurai sans doute jamais de spécialité, hormis de défendre essentiellement les particuliers dans tout ce qu'ils peuvent avoir comme difficulté ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on ne fait pas que du contentieux, on peut faire aussi des procédures qui soient non contentieuses. Mais c'était cette idée-là que j'avais d'avoir une activité de généraliste. Ça devient de plus en plus difficile. Beaucoup de matières deviennent des matières de spécialistes, y compris donc dans ce grand périmètre du droit qui est le droit des particuliers. L'ère du temps est à la spécialisation. Du coup, on est confronté à des contentieux qui vont être des contentieux entièrement occupés par des spécialistes. Et qu'il faut à un moment se dire que si c'est devenu vraiment une matière de spécialistes, on ne peut pas s'improviser sur des matières où le niveau de spécialisation devient très élevé. Aujourd'hui, vous avez des avocats qui ne font que des prud'hommes. Également, d'ailleurs, dans le droit de la famille, où il y a beaucoup d'avocats qui exercent aujourd'hui uniquement en droit de la famille. Il y a des avocats qui ne font que du droit de la construction. Les avocats qui vont faire évidemment que du fiscal ou voilà. Mais même dans le droit des particuliers, la spécialisation est en croissance. Trouver la bonne distance dans l'exercice au quotidien, c'est se souvenir qu'effectivement, il n'y a pas de méthode magique, mais qu'on a un serment. Dans le serment, il y a 5 mots importants, et dans les 5 mots du serment, il y a l'indépendance. L'indépendance, ça permet, quand c'est lié au secret professionnel, à pouvoir être quand même capable de, évidemment, donner des conseils, qui ne sont pas forcément ce que la personne souhaite entendre de la part de l'avocat, puisque comme le médecin va dire des choses qui n'est pas non plus forcément attendues par le patient, il faut parfois dire que ce que propose la personne qu'on assiste comme mode de défense, par exemple, on ne va pas l'adopter. Pour des raisons qui sont liées à son intérêt à lui, même si il le perçoit pas, mais l'intérêt qu'il a, c'est que ce que fait l'avocat puisse avoir une portée dans le procès, une portée auprès des magistrats professionnels, et que donc les conseils qu'on donne sont des conseils qui peuvent ne pas correspondre à l'attente initiale de la personne. Et cette indépendance fait que s'il n'y a vraiment pas de terrain d'entente, il peut arriver effectivement qu'on soit au bout de l'exercice et qu'on soit obligé de dire qu'il va falloir tout simplement trouver un autre avocat. En tous les cas, cette indépendance, c'est ce qui permet d'avoir une distance qui est encore une fois dans l'intérêt de celui qu'on assiste, pas dans l'intérêt de l'avocat. Il faut bien comprendre que la déontologie, c'est pas dans l'intérêt des professionnels. Il n'y a pas de journée type parce que on est certes une profession indépendante, mais on a la particularité d'être soumis à des agendas que nous ne fixons pas. Le monde du palais de justice est un monde où on ne décide pas grand-chose, on ne prend pas les décisions finales et puis on ne décide pas non plus de comment ça marche. C'est-à-dire que notre agenda, il est contraint par ce qui a été fixé par les juridictions pour nous organiser. On tourne autour de quelque chose qui est un agenda qui n'est pas le nôtre. Donc, dans un cabinet comme le mien, où on travaille sur les 6 avocats qui travaillent dans mes bureaux, on est tous autour de ce monde du palais de justice. On a des agendas très variés et autour des audiences qui nous sont donc imposées dans leur fixation et dans leur date. Donc, en fonction des audiences, le reste est un travail où il y a quand même un élément central pour un avocat qui l'exercice qui est le mien. C'est évidemment la rencontre avec celui qu'on va assister. Cette rencontre, c'est le rendez-vous. Et le rendez-vous est quand même un temps fort de ce... Enfin, pour moi, un temps fort de la profession, puisque c'est là que, dans le plus grand secret, la personne va pouvoir dire tout ce qu'il souhaite à son avocat et que ça, ensuite, puisse aboutir à l'aider dans ce monde du palais de justice qu'il est amené à côtoyer et qu'il ne connaît pas du tout et qu'il a bien besoin d'être soutenu pour découvrir ce monde. Il peut y avoir une part de stress, comme dans d'autres professions, c'est absolument pas une spécificité de la profession d'avocat, mais elle existe dans la profession d'avocat, dans cet exercice qui est un exercice du procès, où il y a quand même beaucoup d'imprévus par définition. Un procès est jamais totalement, on peut pas l'anticiper totalement. Il faut s'adapter à ce qui se passe dans le procès, ce qui crée éventuellement dans la préparation une bonne dose de stress, puisque évidemment on est toujours incapable de pouvoir anticiper et maîtriser par avance ce qui va se passer. Les assises sont évidemment une source de stress élevé, parce que souvent les enjeux pour celui qu'on assiste sont des enjeux très élevés, puisque là on est évidemment au cœur de ce procès non maîtrisable intégralement, à mise en cause ou à qui va pas dire du tout qu'on nous a dit avant, ce qu'il nous avait dit avant. Il a toute liberté de changer. Celui qu'on assiste est un humain qui, face à l'adversité du procès, peut tout à fait changer. Donc l'avocat peut pas le lâcher en disant « c'est quand même pas sympa de pas dire ce que vous m'aviez dit avant ». Et il faut pouvoir s'adapter à l'idée qu'il y a sûrement de ce que dit celui qu'on assiste, quelque chose à tirer, et puis le formuler ou le reformuler pour que les juges n'oublient pas certains aspects qui ont pu ne pas être assez mis en avant par les débats du procès. La fatigue générée par un procès pour l'accusé d'abord, hein, puisque c'est quand même lui le plus fatigué, mais pour l'ensemble des acteurs est importante, c'est des audiences très denses, et que là, effectivement, le stress peut être élevé avant, pendant, et puis même un peu après parfois, parce que on essaye de... Enfin, on rejoue le match comme font les sportifs. À Alors, donc, apprivoiser le stress, évidemment, c'est pas facile en réalité. Peut-être qu'il faudrait trouver, plus réfléchir à cette question et trouver des moyens, voire des soutiens pour le mieux maîtriser ce stress. On est aussi un peu confronté à l'idée que c'est un peu aussi le moteur de la mise en acte de notre concentration et de ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le très stressé se dit « si je stresse pas, ça va être encore plus stressant parce que je vais pas être à la hauteur ». Il y a vraiment une partie aussi de mise en concentration sur ce qui va se passer et encore une fois qu'on n'a pas pu totalement imaginer. On a forcément des idées, on a forcément éventuellement déjà pensé à des choses à dire, c'est une évidence de dire ça, on a préparé, on a souvent même beaucoup préparé, on a beaucoup étudié et essayé de maîtriser le dossier, le contenu du dossier, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, du début jusqu'à la fin, mais après il y a ce qui se passe à l'audience et de pouvoir s'adapter, y compris à un imprévu, c'est-à-dire une façon une tournure du procès qui n'était pas forcément celle attendue. Voilà. Alors ça, chacun réagit au stress différemment. Pour ma part, je supporte assez mal le stress. Au plus tôt, je me suis pas habitué au stress que j'ai toujours 31 ans après. L'exercice dans un pays démocratique comme le nôtre de la profession d'avocat fait penser que l'avocat doit aussi considérer qu'il vit dans une société particulièrement à la fois performante dans son organisation du point de vue juridique, judiciaire. Donc, ne pas toujours penser que le rôle de l'avocat est tous les jours de lutter contre la tyrannie, parce que ça n'a pas de sens quand on vit dans un pays comme le nôtre. De mon point de vue, c'est un point de vue qui est extrêmement personnel. Et que se mettre dans une posture, qui est une posture comme ça, un peu exabrupto, forcément de combat contre une institution qui serait une institution d'oppression, ça n'a pas de sens en France. Et c'est important de se le dire, parce que sinon, on oublie à quel point ceux qui vivent réellement dans des société où la liberté d'exercer la profession n'existe pas, où la liberté d'expression même n'existe pas, on est complètement à côté de la réalité. Et nous, il faut qu'on admette qu'on est dans des situations, même si encore une fois, il faut parfois s'insurger contre quelque chose dans la machine judiciaire, parce que je parle essentiellement de ça, parce que c'est ce que je côtoie, le palais de justice. Donc, pouvoir s'insurger, pouvoir dire des choses critique, mais en tous les cas toujours en se disant que la position un peu artificielle de l'avocat qui est le dernier rempart contre la tyrannie, faut pas le sortir tous les jours parce que ça n'a pas de sens chez nous et surtout ça c'est pas raisonnable par rapport à ceux qui vivent vraiment ces situations où effectivement l'avocat est un bon indicateur du niveau des libertés parce que quand les avocats commencent à ne plus pouvoir exercer, c'est pas bon signe pour la démocratie et c'est que souvent ça va assez mal. Comme on le voit dans plein de pays, je pense vraiment qu'on devrait savoir dire, savoir reconnaître que dans un système comme le nôtre, on a la capacité d'exercer notre profession dans des conditions qui sont assez adaptées à une vraie défense des personnes qu'on assiste. Alors, si c'était à refaire, évidemment, puisque j'ai expliqué que c'est par hasard que je suis devenu avocat, peut-être que je penserais à nouveau à mon rêve d'étudiant, qui était plutôt de me lancer dans une thèse et peut-être une autre. Voilà, il n'y avait pas de poste d'allocataire quand j'étais sorti de mon DEA. Et puis, j'avais cette opportunité, parce que je travaille déjà depuis 2 ans dans un cabinet d'avocat, donc je ne regrette pas du tout. Mais je crois vraiment que j'ai par hasard, finalement, fait une profession qui est vraiment pleine de richesses. Stressante, mais pleine de richesses.
C'était L'Envers de la Robe, une série de podcasts proposés par le Barreau de Nantes, réalisée par Pop Media. Prochain épisode, Jocelyne.